VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manirakis à la présentation de cette édition du jeudi 13 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. En RDC, un policier tué à Kinshasa dans des heurts entre musulmans au Soudan du Sud. Un employé d'une ONG humanitaire tué au Burkina Faso. Les autorités plaident pour le vivre ensemble à l'occasion de la fête du Ramadan qui coïncide avec l'Ascension.
La paix, rien que la paix. Comme vous le savez, vous voyez tout ce qui se passe au niveau de certaines régions. On ne fait que prier, en tout cas pour que ce mal disparaisse au Burkina Faso.
Conflit au Proche-Orient, les échanges de tirs meurtriers continuent. Pékin appelle l'ONU à mettre fin aux violences. Dans 10 minutes, vous suivrez également les sports, mais d'abord le journal. En République démocratique du Congo, fête de Ramadan tendu chez les musulmans, un policier a été tué jeudi dans des heurts entre groupes musulmans rivaux qui se disputaient le plus grand stade de Kinshasa pour la prière de l'Aïd. Le point avec Abdourahmane Dia.
Selon le porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, en dépit des garanties données au gouverneur par les responsables de deux ailes rivales pour célébrer ensemble la fin du Ramadan, des échauffourées ont éclaté, causant la mort d'un policier. Charles Mutamuntu précise qu'un véhicule de la police a été brûlé devant le stade des martyrs. Le général Silvano Kasongo, chef de la police de la capitale, parle de 35 interpellations et d'une quarantaine de blessés. La communauté islamique de RDC connaît une crise de succession depuis quelques années entre les deux factions rivales au sein de l'unique association musulmane, la COMICO, la communauté islamique du Congo. L'affaire est devant des tribunaux, mais aucune décision définitive n'a été rendue par la justice.
De violents combats opposent depuis mercredi de groupes armés rivaux dans la province du Sud Kivu, dans l'est de la RDC, faisant état de plusieurs milliers de déplacés. Ces affrontements se déroulent dans la zone de Bijombo, dans les hauts plateaux de la province, dominant le lac Tanganyika et la ville d'Uvira, frontalière avec le Burundi. Ils opposent des groupes Maïmaï locaux, nommés Biloze Bichambouke, aux combattants Twiguaneo, d'un colonel déserteur de l'armée, Michel Lukunda, issu de la communauté locale rwandophone Banyamulenge. Le premier ministre ivoirien Patrick Hachi, 65 ans, se trouve en France depuis 3 jours pour des soins médicaux et doit rentrer vendredi en Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes n'ont pas communiqué jusqu'à présent sur le sujet. Monsieur Hachi est le troisième premier ministre que connaît la Côte d'Ivoire en un an après les décès subis des deux précédents. Un employé d'une ONG a été tué mercredi dans l'attaque d'un convoi humanitaire au Soudan du Sud, a annoncé jeudi le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies dans le pays. Le point avec Michel Joseph.
L'attaque s'est déroulée dans le comté de Boudi, dans la région de l'Équateur oriental, située dans le sud-est du pays, qui a connu plusieurs embuscades cette année. L'ONG néerlandaise Cordaid a confirmé la mort d'un de ses employés spécialiste de la santé reproductive, décédé des suites de ses blessures. Les routes sont un lien vital entre les organisations humanitaires et les communautés dans le besoin. Le coordinateur de l'action humanitaire de l'ONU, Alain Noudéhou, a condamné ce meurtre commis par des criminels qui ont tiré sur un véhicule humanitaire clairement identifié, se rendant dans un établissement de santé. Fin janvier, un employé de l'organisation sud-africaine Joint Aid Management a été tué près de Bentiu, dans le nord du pays. OCHA avait indiqué en novembre 2020 que 9 travailleurs humanitaires avaient été tués dans le pays, soit 3 fois plus qu'en 2019.
Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok veut profiter d'une conférence internationale à Paris le 17 mai pour attirer des investisseurs et permettre d'effacer la dette extérieure de 60 milliards de dollars de son pays. Nous avons déjà réglé nos arriérés dus à la Banque mondiale et à la Banque africaine de développement. Le gouvernement Hamdok a œuvré depuis 2 ans pour rétablir l'économie du pays et réintégrer Khartoum sur la scène internationale. Des partis politiques ont récemment joint leur voix à celle des défenseurs des droits humains pour demander la libération de journalistes et militants emprisonnés au Maroc au nom d'un souci d'apaisement. Il est nécessaire de créer un climat général positif basé sur un apaisement politique et la protection des droits humains, ont affirmé ces partis dans un communiqué. Un mandat d'arrêt pour propagande terroriste a été émis contre un détenu marocain qui dirigeait les prières du vendredi dans une prison italienne. Selon la police, il est accusé d'avoir incité ses co-détenus à commettre des actions terroristes et des crimes motivés par la haine raciale et religieuse. Il faisait aussi l'apologie d'Al-Qaïda et de son ex-chef Oussama Bin Laden, s'en prenait aux Juifs et appelait à la destruction du Vatican tout en se félicitant de plusieurs attaques terroristes.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Escalade du conflit au Proche-Orient en 4 jours. Les violences ont fait au moins 83 morts dans la bande de Gaza, bombardée par des forces israéliennes et 7 morts en Israël. Le point avec Jacques Aristide.
Une détérioration de la situation sur 2 fronts. Des émeutes entre Arabes et Juifs dans les rues de certaines villes d'Israël et des échanges de tirs meurtriers entre les forces israéliennes et les Palestiniens du mouvement islamiste Hamas à Gaza. En dépit des appels à la désescalade de la communauté internationale et des efforts diplomatiques pour mettre un terme aux affrontements, des centaines de roquettes ont à nouveau été tirées vers Israël depuis la bande de Gaza où les frappes de l'armée israélienne ont continué. Le Hamas indique avoir tiré sa plus grosse roquette en direction du 2e aéroport d'Israël. Washington annonce l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les territoires palestiniens pour exhorter une nouvelle fois la désescalade. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone hier avec le président américain Joe Biden. Le président palestinien Mahmoud Abbas a lui conversé avec le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken, qui fait savoir dans un tweet qu'il lui a signifié la nécessité de mettre fin aux attaques à la roquette et de faire baisser les tensions. Une 3e réunion en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, publique cette fois-ci, est attendue demain.
Israël a déployé jeudi des chars et des blindés le long de la frontière avec la bande de Gaza. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a ordonné des renforts massifs au sein des forces de sécurité dans les villes mixtes israéliennes où vivent juifs et arabes, théâtre d'émeutes depuis mardi. Le président russe Vladimir Poutine et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, ont appelé jeudi israéliens et palestiniens à mettre fin aux affrontements meurtriers en cours, a indiqué le Kremlin. La Chine a fait part jeudi de sa vive préoccupation au sujet de l'escalade militaire entre Israël et des groupes islamistes armés à Gaza et a appelé l'ONU à réaffirmer son soutien à une solution à 2 États. Lors de 2 réunions du Conseil de sécurité cette semaine, les États-Unis se sont opposés à l'adoption d'une déclaration commune, la jugeant contre-productive à ce stade, selon des diplomates. Les Républicains ont demandé jeudi au président américain Joe Biden de stopper les négociations en cours pour ressusciter l'accord sur le nucléaire iranien en invoquant un lien entre l'Iran et les tirs de roquettes du Hamas contre Israël. Le sénateur Marco Rubio a adressé au président Biden une lettre co-signée par la quasi-totalité des sénateurs républicains réclamant que Washington ne fasse rien pour enrichir les ennemis d'Israël. L'ex-secrétaire d'État de Donald Trump, Mike Pompeo, a aussi fait le lien entre les pourparlers en cours et l'embrasement en Israël et dans les territoires palestiniens. Ici aux États-Unis, le groupe Colonial Pipeline a annoncé hier avoir amorcé le redémarrage des opérations de son oléoduc mis à l'arrêt après une cyberattaque 5 jours plus tôt, provoquant une ruée dans les stations-service. Claire-Marie Gibourg.
Les opérations ont redémarré hier, mais il faudra plusieurs jours avant un retour à la normale de ce réseau qui transporte 45% de l'essence, du diesel et du kérosène depuis les raffineries du Golfe du Mexique vers la côte est des États-Unis. Plusieurs États, allant de la Floride à la Virginie, avaient déjà déclaré l'état d'urgence, renforçant l'affolement des automobilistes et les risques de pénurie. La Maison-Blanche a annoncé qu'une loi empêchant le transport de carburant par des bateaux non américains sera temporairement suspendue pour faciliter l'approvisionnement. Colonial Pipeline a été victime vendredi soir d'un piratage informatique qui l'a forcé à fermer son système. Hier, le président Joe Biden a signé un décret pour améliorer la cybersécurité aux États-Unis après deux autres cyberattaques majeures.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre page des sports, nous retrouvons Yacouba Ouédraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo a un nouveau sélectionneur. La Fédération congolaise de football annonce la nomination de l'Argentin Hector Cooper au poste de sélectionneur des Léopards. Il succède ainsi à Christian Zengi, viré après la non-qualification pour la CAN 2021. Les détails avec notre correspondant à Kinshasa, Valdo Simo Yamba.
La RDC tient finalement son sélectionneur. Un choix qui a mis longtemps à se dessiner et ce n'est pas Roland Courbis comme récemment annoncé, mais plutôt Hector Cooper qui prend les commandes de la sélection congolaise de la RDC. L'Argentin de 66 ans, deux fois finaliste de la Ligue des Champions d'Europe avec le club espagnol de Valence, va ainsi conduire les Léopards de la RDC aux éliminatoires de la Coupe du Monde, dont la qualification pour Qatar 2022 demeure l'objectif principal de la République démocratique du Congo. L'Argentin va faire avec un staff déjà bien étoffé par la Fédération congolaise de football association. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
En Europe, l'UEFA a officialisé la tenue à Porto de la finale de la Ligue des Champions prévue le 29 mai entre Chelsea, du Marocain Hakim Ziyech et du Sénégalais Edouard Mendy et Manchester City de l'Algérien Riyad Mahrez. La prestigieuse affiche devait initialement se jouer au stade Atatürk à Istanbul, mais les restrictions de voyage entre la Turquie et le Royaume-Uni ont contraint les organisateurs à revoir leurs plans. Suite de notre série sur la présentation des équipes qui prennent part à la Basketball Africa League prévue au Rwanda du 16 au 30 mai prochain, nous nous intéressons ce soir à trois clubs maghrébins. Nous commençons par les Algériens de JSP. Nani Talani.
Le groupement sportif des pétroliers d'Algérie est un club centenaire. Créé en 1921, le JSP n'a formé son équipe de basketball qu'en 2008. Basé à Alger, le JSP faisait à l'origine partie du Mouloudia Club. Riche d'une grande expérience dans le domaine sportif, l'équipe, surnommée le Doyen, a su s'imposer année après année pour remporter tous les championnats de basketball algériens depuis 2010. Un palmarès retentissant puisque la formation est la plus titrée du pays dans la discipline. Les Algériens peuvent compter sur leur coach Mohamed Kridesh, avec qui ils dominent le championnat national, mais aussi et surtout sur Mohamed Sédik Touati, 34 ans, avec sa moyenne de 15 points et 9 rebonds par match cette saison. Il a été le principal artisan de leur qualification lors du match décisif à Yaoundé au Cameroun face à l'Est Police du Mali. Mohamed Sédik Touati avait alors réalisé un double-double avec 17 points et 17 rebonds.
La Tunisie, elle, est représentée par l'US Monastir Abdourahman Dia.
L'Union sportive de Monastir est un club tunisien fondé en 1959. L'équipe gravit régulièrement les échelons jusqu'au début des années 90 avec sa montée en division première où elle s'impose parmi l'élite. Le palmarès du club est impressionnant. Il collectionne les places d'honneur, troisième du championnat en 1990-91, quatrième en 1995-96, avant de remporter son premier titre en 1997-1998 sous la direction d'Adel Latli et Saber Hafsi. Il récidive en 1999-2000 et en 2004-2005. Il est par ailleurs finaliste de la Coupe de Tunisie consécutivement en 2014 et 2017, ce qui fait de Monastir l'un des fiefs du basketball national. L'US Monastir est conduit par son coach Soufiane Feljani et son capitaine Redouane Slimani.
Eux sont classés parmi les favoris de cette toute première édition de la balle. Michel Joseph nous dit qui sont les Égyptiens du Zamalek Sporting Club.
Fondé en 1911 et deuxième club le plus titré d'Égypte derrière Al-Ittihad, 25 titres nationaux remportés, le Zamalek Club basé au Caire se présente à cette première édition de la Basketball Africa League avec la casquette d'équipe redoutable. Mais s'il domine à l'échelle nationale, sa moisson continentale n'est pas aussi reluisante. Seulement un titre enlevé en 1990. Andalouse, où le club Kairot a décroché la Coupe d'Afrique des clubs champions. Les Égyptiens ont une poisse, 4 finales perdues dans cette compétition, dont la dernière en 1998. Pour la balle, le champion national 2019 voudrait monter sur le Kraal pour mettre fin à près de 30 ans de disette en compétition continentale. Pour ce faire, le Zamalek devra d'abord se sortir du groupe C, désespoir que les Égyptiens font reposer sur les épaules de l'ensemble des joueurs, mais surtout de l'expérimenté Amro Sherif, 30 ans, qui joue en équipe nationale depuis ses 18 ans.
Merci Michel.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les musulmans ont prié pour la fête du Ramadan ce jeudi. Alors que le pays est en proie aux attaques terroristes, les musulmans ont prié pour que le pays retrouve la paix. Le Ramadan cette année coïncide avec l'Ascension, occasion pour les autorités de prêcher pour la tolérance religieuse et le vivre ensemble. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
C'est la grande prière à la place de la nation de Ouagadougou. Plusieurs milliers de musulmans sont venus prier pour la paix dans le pays. Adama Kwanda est infidèle.
Nous avons demandé à Dieu plein de choses, de bénédictions surtout sur notre pays, ainsi que les pays voisins, ainsi que nos frères en Palestine actuellement qui sont dans une crise vraiment, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de les combler de la paix.
Son voisin de prière, Karim Guira, souhaite la même chose.
On demande à Dieu vraiment d'exercer tout ce qu'on a fait dans le mois béni. Bon, tous ces bienfaits qu'on a fait, on demande Dieu n'a qu'à nous accepter dans son grand royaume. Et on prie Dieu aussi à tous ceux, les malades qui n'ont pas pu faire le déplacement ici, ceux qui sont à la maison.
Elhadj Ousseni Tapsoba est le vice-président de la communauté musulmane.
La paix, rien que la paix. Comme vous le savez, vous voyez tout ce qui se passe au niveau de certaines régions. On ne fait que prier, en tout cas pour que ce mal disparaisse au Burkina Faso.
Aux côtés des musulmans, d'autres confessions religieuses, les chrétiens, les catholiques et les protestants, mais aussi des leaders coutumiers. La tolérance religieuse est une réalité.
Nous devons avoir confiance les uns aux autres, au-delà de nos différences ethniques, religieuses, politiques, sociologiques, etc.
Le cardinal Philippe Ouédraogo, archevêque de Ouagadougou.
Nous sommes, comme dit le pape, les enfants d'une même maison. C'est la maison commune, les grains d'un seul et même panier. Alors ensemble, bâtissons, il faut démolir les murs de haine, les murs de violence, les murs d'incompréhension et établir des ponts, bâtir des ponts.
Clément Sawadogo, ministre de l'administration territoriale.
Quand je vois qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'ascension chez les chrétiens et que le cardinal Philippe Ouédraogo, chef de l'Église, peut se passer de ses propres cérémonies pour venir ici communier avec les musulmans, vraiment je pense que c'est de la très haute symbolique et c'est une chance pour notre pays que nous devons préserver coûte que coûte, vaille que vaille.
La fête de l'Aïd el-Kébir pour la fin du Ramadan coïncide cette année avec celle de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel pour les chrétiens. Elle a été une occasion pour les autorités de continuer à rappeler aux populations les vivre ensemble et la tolérance religieuse. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
En République démocratique du Congo, au moins un fidèle musulman et un policier ont été tués à Kinshasa dans des échauffourées entre deux camps de la communauté musulmane que les autorités ont tenté de mettre ensemble pour fêter la fin du Ramadan. Les précisions avec Eddie Isango.
La police confirme qu'un des sept éléments est décédé. Les deux factions de la communauté musulmane qui s'affrontent ont reconnu qu'un fidèle musulman a été tué par balle. Les autorités affirment avoir tenté d'y ramener la paix au sein de la communauté en les invitant à communier lors de cette fête, mais que la situation a dégénéré. Le secrétaire général de l'une des factions musulmanes, l'imam Douma Douara.
Malheureusement, à Kinshasa, tout ne s'est pas bien passé parce que il y a deux ailes qui sont reconnues telles, quand même par les institutions, deux ailes qui se sont toujours opposées. Mais aujourd'hui, ça a dégénéré au point que la police a voulu intervenir. Malheureusement, on nous parlait de pertes en vie humaine. Donc, il y a eu mort d'homme. Et mes services parlent d'un fidèle tué par balle réelle qui serait de la mosquée Zamzamou à Bandalunga et d'un policier aussi tué, des musulmans tués par une balle de la police.
Les deux ailes revendiquent la légalité mais dénoncent la main des politiques. Explication du secrétaire général de l'autre faction, Jean-Claude Saïdi.
Donc c'est de la barbarie, c'est de la sauvagerie, mais c'est aussi la conséquence de ce fait que l'État congolais a longtemps regardé avec moins de conséquences cette crise. L'État a semblé aussi la manipuler, tribaliser les gens. On va imposer quelqu'un qui n'a pas qualité parce que tout simplement il est de la même tribu, des mêmes origines que le président de la République. On va l'imposer par la force à la tête de cette communauté. Il y a des conseillers proches du chef de l'État qui sont dans cette affaire, dans cette machination. À chaque fois qu'il y a des décisions judiciaires qui sont tombées en deux faveurs de ces usurpateurs, M. Youssouf Dibondo, ils sont là pour interférer, ils interviennent pour dire non, voilà, ne faites pas ça, n'exécutez pas ça. La preuve, c'est qu'il y a tout un jugement qui a été rendu par les tribunaux des grandes instances de la Gombe qui avait débouté M. Youssouf Dibondo pour défaut de qualité, disant qu'il n'a jamais été membre effectif et par conséquent, il n'a pas la qualité. Qu'on comprend finalement que c'est de la mauvaise foi des gens qui sont déterminés à plonger dans la communauté dans le chaos.
C'est pareil pour l'imam Douma Douara qui lui dénonce aussi une usurpation.
C'est une crise de 2018 qui était liée à un glissement de mandat d'un comité qui était là en place. On a porté l'affaire devant l'État congolais qui avait tranché cette affaire pour l'organisation d'une assemblée générale. Cette assemblée a été organisée. Malheureusement, il y a un groupe de gens qui se croient politiciens, donc avec des pouvoirs politiques qui ont organisé en amont aussi leur assemblée générale non couverte par le ministère de la justice, non reconnue par le ministère de la justice, mais qui s'estime avoir des entrées politiques et avoir peut-être la possibilité de bafouer toutes les lois qui régissent les confessions religieuses en République démocratique du Congo.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique 24h sur 24.
La crise sanitaire liée à la pandémie a relayé au second plan plusieurs programmes de développement en Afrique, dont certains visant à lutter contre le changement climatique. La Millennium Challenge Corporation, qui dépend du département d'État américain, travaille notamment avec divers pays d'Afrique de l'Ouest pour développer les énergies renouvelables. Nathalie Barge a joint la directrice générale adjointe de la MCC, Alexia La Tortue.
Le défi climatique est une question existentielle, je dirais, pour le monde et aussi absolument pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique francophone. Parce que franchement, les pays les moins responsables du réchauffement climatique, et beaucoup de pays en Afrique notamment, sont aussi les pays les plus touchés par le changement climatique et les pays les moins bien équipés pour gérer les effets du réchauffement climatique et les coûts associés. Et nous savons que le réchauffement climatique entraîne des sérieux risques au développement. Il y a en effet un lien très fort entre les questions de la pauvreté, de la croissance économique et du changement climatique. Et c'est pour cela que le MCC, en partenariat avec beaucoup de pays où on travaille, notamment des pays en Afrique de l'Ouest, par exemple le Burkina, le Bénin, le Sénégal, s'est engagé dans la lutte contre les causes et les effets du changement climatique très tôt. Par exemple, au cours des dernières 5 années, MCC a investi à peu près 1,5 milliard de dollars dans des programmes liés au climat. Nos activités couvrent à la fois la résilience climatique, par exemple dans le domaine de l'agriculture, la l'adaptation au changement climatique et bien sûr l'atténuation des effets du changement climatique. Alors là, on parle par exemple des investissements qu'on fait dans des pays dans le cadre des énergies renouvelables. Par exemple, au Burkina, on a un programme où on travaille dans le domaine de l'énergie, à la fois sur la qualité de l'énergie, l'abordabilité de l'énergie, l'accès aussi dans les zones reculées à l'électricité. On travaille aussi dans des pays comme le Bénin pour essayer de voir comment le secteur privé, les investissements du secteur privé peuvent aussi s'intéresser à l'énergie renouvelable. Et dans le cas du Bénin, on s'est surtout focalisé sur l'énergie solaire.
Vous avez aussi des programmes au Niger au niveau de l'agriculture, c'est cela?
Oui, tout à fait. Au Niger, on a un programme qui touche sur le secteur de l'eau et le secteur de l'agriculture. Et bien sûr, il y a un lien entre les deux secteurs. Et là, on travaille beaucoup sur tout ce qui est la modernisation des systèmes d'irrigation. On travaille aussi avec les petits agriculteurs pour qu'ils puissent s'adapter à la nouvelle agriculture face aux défis du changement climatique et aux problèmes de sécheresse qu'on voit aussi beaucoup dans un pays comme le Niger.
La directrice générale adjointe de la Millennium Challenge Corporation, Alexia Latortu, jointe à Washington. La pandémie de COVID-19 aurait pu être évitée selon les conclusions du rapport d'un panel indépendant d'experts mandatés par l'OMS. Le rapport note que la combinaison de mauvais choix stratégiques, d'un manque de volonté de s'attaquer aux inégalités et d'un système manquant de coordination a permis à la pandémie de se transformer en une crise humaine catastrophique. Les experts réclament d'urgence de vastes réformes des systèmes d'alerte et prévention pour éviter de nouvelles pandémies. Mohamedou Oumfa a joint le docteur Marie Mbaga, médecin spécialiste en santé publique.
En général, le rôle de l'OMS est de diriger et de coordonner les actions de santé mondiale, y compris au sein du système des Nations Unies, c'est-à-dire tous les pays qui sont membres du système des Nations Unies. Cependant, ce rôle peut être super compliqué, y compris parce que il y a certains pays, comme les États-Unis, qui ont une souveraineté en matière de santé publique, avec des institutions telles que le CDC, qui ont des budgets, les mêmes budgets, ou alors des budgets supérieurs à celui de l'OMS. Et dans cette configuration, cet organe comme le CDC aurait vraiment des difficultés à suivre les recommandations de l'OMS et serait plus enclin de faire ses propres recommandations. Et le gouvernement américain, pour ne citer que celui-là, ferait exactement ce que le CDC lui dirait au lieu de ce que l'OMS dirait.
Alors, selon un nouveau rapport d'experts, la pandémie de COVID-19 aurait pu être évitée si l'OMS avait opéré de meilleurs choix stratégiques. Par exemple, si l'OMS avait sonné l'alerte très tôt après les premiers cas enregistrés en Chine. Quel est votre avis?
En réalité, la Chine n'est pas connue pour sa plus grande transparence en matière de reporting des données de santé publique. Et au moment où ils ont notifié l'OMS, rien ne dit que c'était vraiment le bon moment. En plus de ça, la Chine et les États-Unis, les premiers touchés de cette pandémie, avaient leur guerre géostratégique et n'écoutaient que ce que leurs experts disaient. Et à cette époque-là, je ne pense pas qu'une recommandation quelconque de l'OMS aurait trouvé une oreille attentive auprès de ces deux pays-là.
Comment jugez-vous les actions menées par l'OMS pour se rattraper depuis lors? On pense par exemple au dispositif COVAX pour vacciner les gens dans le monde.
Écoutez, l'OMS est une agence de développement dont les fonds sont directement donnés par les pays membres et leur initiative COVAX entre en ligne droite avec leur agenda. Cependant, cette initiative a été super compliquée parce que l'industrie pharmaceutique qui a beaucoup, beaucoup plus de moyens s'était déjà mis en branle pour sortir un vaccin avec beaucoup d'argent en jeu. Donc, ils viennent avec cette initiative qui rentre dans le cadre de leur mission de développement, y compris des pays qui ne peuvent pas se procurer des médicaments à des coûts élevés. Donc elle est louable, elle était louable et c'était la chose à faire en accord avec leur mission.
Alors d'après le rapport, il faut très clairement des réformes de systèmes d'alerte et de prévention pour éviter de nouvelles pandémies. Quelles pourraient être ces réformes selon vous?
Je pense que avant un système d'alerte de prévention générale, le problème spécifique qui s'est posé avec la coordination de l'OMS, c'est que il y a eu un gap entre ses rôles théoriques et puis ce qui se passe sur le terrain. Il faut que il y ait une sorte de on redonne la place de coordination mondiale de la santé de l'OMS pour que l'OMS puisse jouer son rôle. Ça ne servira à rien de mettre ce système d'alerte mondial si la Chine ou les États-Unis peuvent avoir un système parallèle et faire ce qu'ils veulent. Ça reviendra à réduire l'OMS à son rôle théorique et ça ne changera pas grand-chose.
Le docteur Marie Mbaga, médecin spécialiste en santé publique. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Georges Léonard Sagno, Joselle Morissin et Lionel Lunamira Gahima. Eric Manelakis a été à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.